Europe 1.
Nous accueillons Gabriel maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Gabriel que je vais présenter, car c'est nous qui l'accueillons ce soir sur notre demande. Gabriel qui a 30 ans et qui s'est donné pour mission de sensibiliser les jeunes au métier manuel. Elle est directrice générale et fondatrice de l'association De l'or dans les mains. Et Gabriel va nous parler de cette vocation hein, et du sens qu'elle donne aujourd'hui à sa vie. Bonsoir Gabriel.
Bonsoir.
Bonsoir, alors voilà, je vous ai bien introduit, je n'ai rien oublié.
Non, pas du tout.
D'accord. Alors, De l'or dans les mains, qu'est-ce que c'est que cette association et depuis quand et pourquoi l'avez-vous créée?
Donc, la mission de l'association, c'est de réintégrer la pratique manuelle à l'école, particulièrement au collège.
Oui.
Parce qu'on est dans un système scolaire aujourd'hui qui a vraiment créé une rupture entre les apprentissages académique et la manipulation et la pratique manuelle et ce qu'on appelle l'intelligence manuelle.
Oui.
Donc voilà d'où est née cette association. C'était l'idée de dire que aujourd'hui il y a beaucoup de manufactures et d'ateliers qui font face à de grandes difficultés de recrutement.
Ah bon, d'accord. Okay. Quel type
dans les entreprises artisanales aujourd'hui on a des chiffres qui sont assez alarmants, c'est-à-dire que tout simplement à cause de la mauvaise information des jeunes, on a 65% des jeunes qu'on accompagne qui ne connaissent aucun des métiers qui leur sont présentés. Et aujourd'hui, on a quand même, enfin, d'ici 10 ans, on a 300 000 entreprises artisanales à reprendre d'ici 10 ans. Et en fait, ce sont un peu les mêmes problématiques qu'on retrouve dans le monde agricole.
Oui.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne n'a vraiment eu envie de faire ces métiers-là parce qu'on a souhaité devenir une société d'intellectuels, en fait,
oui.
Où on a vraiment dénigrer la voie professionnelle et se dire qu'on n'avait plus besoin d'avoir d'usines et de gens qui font dans notre pays. Aujourd'hui, on en revient.
Mm-hmm.
Ça fait quand même quelques années qu'on a même des politiques publiques qui veulent réindustrialiser le pays. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on part de très loin et qu'aujourd'hui, les jeunes connaissent très peu ces métiers-là. Donc, De l'or dans les mains va être là à la fois pour susciter des vocations et aussi pour replacer l'intelligence manuelle au cœur du système scolaire en travaillant main dans la main avec des enseignants pour qu'en fait, la menuiserie, la mécanique, la vannerie, la couture, ça puisse en fait venir nourrir les apprentissages académiques.
Vous disiez l'industrie disparue. En fait, est-ce que c'est cette industrie dont on s'est rendu compte que nous avions laissé un peu tomber l'industrie depuis une trentaine d'années en France et finalement, c'est la disparition de tout un tas de métiers et de formations qui ont disparu en même temps ?
Absolument. Sauf qu'aujourd'hui, on en a besoin. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que la mondialisation touche ses propres limites.
Oui, oui.
Finalement, faire produire des objets à bas coût dans d'autres pays loin de chez nous qui épuisent des ressources locales, ça n'a plus forcément de sens. Et que si demain on veut pouvoir fabriquer des maisons sont résilientes face aux aléas climatiques, fabriquer des assiettes pour nos maisons qui ne sont pas faites à l'autre bout du monde, il va falloir former et replacer aussi ces manufactures au cœur de nos dynamiques économiques, sociales, territoriales, etc.
Mmh. Alors moi, j'avais, Gabriel, j'avais des travaux manuels quand j'étais plus petit. Ça n'existe plus, ça ?
Oui, vous avez sans doute connu ce qu'était l'EMT, l'enseignement manuel et technique.
Exactement.
Ouais. Non, ça n'existe plus. Donc après, ça a été remplacé par la technologie, qui a longtemps été des programmes vraiment avec de la manipulation. Enfin, moi, j'ai fait un petit peu de soudure, je me souviens, je fabriquais des frisbees lumineux, des choses comme ça, mais en fait, tout ça a drastiquement été réduit à peau de chagrin. Aujourd'hui, en technologie, on fait principalement de la programmation informatique, mais vraiment quasiment plus du tout de pratiques manuelles. Et puis, enfin, c'est une matière qui a été très dénigrée ces dernières années, qui a été supprimée en classe de 6e par volonté politique. Donc, en fait, aujourd'hui, il reste un petit peu la technologie et les arts plastiques qui sont en fait considérés comme des sous-matières où le jeune peut exercer sa créativité et l'intelligence de ses mains.
On s'en aperçoit aujourd'hui. Moi, j'habite à la campagne, vous voyez, et je m'aperçois que quand on veut faire réparer un petit truc aujourd'hui, mais toutes ces micro-entreprises qu'on trouve sur Internet maintenant, hein, des petites entreprises, c'est-à-dire il y a un patron hein, qui est tout seul, généralement, où ils sont deux, ils ont un carnet d'adresses, enfin, ils ont un emploi du temps presque de ministre aujourd'hui, en fait.
Si vous voulez refaire votre toiture, il faut attendre 4 ans.
C'est incroyable. Est-ce qu'on s'est aperçu de ça depuis le Covid ?
Alors oui, je pense que, en fait, avec le Covid, on a un peu plus regardé ce qu'il y avait autour de chez soi.
Oui.
On a aussi un petit peu vu nos limites quand les échanges internationaux se sont arrêtés. Après, je pense que c'est un sentiment, c'est l'âme de fond qui quand même émerge depuis même un petit peu avant le Covid. Je pense que la question du sens aussi de son travail, il y a quand même toute une génération de cadres sup, diplômés de grandes écoles qui finissent par se rendre compte que finalement ils ont envie de peut-être mettre d'un peu plus de sens et de palper en fait les raisons ou la finitude de ce qu'ils font. Mais en effet, le Covid a certainement accentué cette prise de conscience.
Mmh. D'où vous vient, vous, ce goût pour l'artisanat, Gabrielle ?
De plusieurs choses. Moi, d'abord, j'ai grandi à la campagne, donc dans un village en Touraine, où vous avez déjà plus de services publics et qu'il vous reste des ateliers, des manufactures qui ferment peu à peu parce que, en fait, il n'y a pas de repreneurs. Parce que c'était bien ça le problème, c'est qu'il y avait un marché, mais il n'y avait pas forcément de repreneurs. Il y a quelque chose, enfin, moi je l'ai vu, et ça délite, ça abîme un territoire et ses dynamiques sociales et culturelles, ses lieux de socialité aussi. Voilà, j'avais un tonton, enfin, j'ai toujours un tonton compagnon, tailleur de pierre. Donc moi j'ai vraiment grandi dans cet univers où je vivais à côté d'un agriculteur. Et il y avait toujours des artisans à la maison pour réparer des choses, pour prêter leur tracteur, pour prêter leur bétonnière, voilà, des choses comme ça. Et par ailleurs, moi, j'ai une scolarité un peu cabossée, notamment au collège. Et en fait, j'ai compris beaucoup plus tard que c'était simplement que j'étais pas forcément formatée à l'intelligence académique et que le système scolaire fait que quand on coche pas certaines cases, on se retrouve facilement sur le côté.
D'accord.
Et puis ensuite, moi, je suis partie faire mes études à Paris. Et là, en arrivant à Paris, notamment à Sciences Po, j'ai découvert qu'il n'y avait pas du tout de culture ni artisanale ni agricole et que c'était quand même un petit peu problématique dans des instances où on est censé former des futurs dirigeants qui vont avoir une influence sur les politiques publiques.
Oui, et qui vont avoir une influence sur les politiques publiques. Et quand on a cette vocation et cette mission, mieux vaut être au courant des choses quand même, enfin un minimum.
Oui, et en même temps, on ne peut pas leur en vouloir aux fonctionnaires de se dire que en fait, leur système scolaire a créé une rupture entre ses fondamentaux, entre le lien avec la terre, avec à savoir comment sont structurées les filières artisanales. Et du coup, ils n'ont pas forcément les bonnes clés pour créer des politiques publiques solides. Et donc, c'est un peu de là où il est devenu de l'or dans les mains. C'est-à-dire que moi, je suis sortie d'une école où s'il y a un truc qu'on nous apprend bien, c'est à créer des politiques publiques pour combler des trous dans la raquette. Et donc, avec de l'or dans les mains, je me suis demandé... il y a un problème de connaissance de ces métiers au sein des systèmes scolaires. Qu'est-ce qu'on fait ? Déployons des programmes d'initiation à la pratique manuelle adossés aux programmes scolaires en faisant venir des artisans dans les établissements scolaires qui vont faire fabriquer un objet aux élèves en lien avec leur programme de maths, de physique-chimie, d'histoire, de géographie. Donc c'est comme ça qu'on a, voilà, on a des programmes où on a un menuisier qui va intervenir, faire fabriquer... un nichoir en bois à des élèves en lien avec leur programme de maths, donc le calcul des aires, la trigonométrie. Et puis ensuite, ils vont faire de la dorure à la feuille avec une artisane. Et là, ils vont aborder pourquoi Louis XIV a voulu que Versailles soit vraiment doré. Qu'est-ce que ça signifiait finalement l'or ? Et puis après, ils vont faire de la céramique. Là, donc, on va travailler avec le programme de physique chimie. C'est pourquoi est-ce que le solide devient liquide ? Ah bon, mais la céramique, en fait, c'est la terre qu'il y a sous nos pieds. C'est du kaolin. En quoi est formé le kaolin ? Et c'est comme ça qu'on essaye un petit peu d'irriguer, de réintégrer ce concept, enfin, cette pratique manuelle au sein des établissements scolaires.
Est-ce que c'est aussi la vocation de recréer une égalité pour les jeunes issus des milieux ruraux, en fait, pour les jeunes ruraux ?
Alors, c'est marrant que vous posiez la question parce que c'est un vrai sujet, l'accès... la révélation du potentiel des jeunes des zones rurales, qui qui, en fait, quand ils grandissent à l'adolescence, sont confrontés à des obstacles beaucoup plus nombreux qu'un enfant qui va grandir dans une métropole, qui sont l'accès à des stages, l'accès à des opportunités professionnelles, l'accès à des rôles modèles, à l'information. Et qu'en fait, quand on est un jeune ruraux, si on veut faire des études supérieures, mais que ça soit un CAP bijoutier ou une prépa pour faire des écoles d'ingénieurs, en fait, il faut bouger. Donc, c'est la question de la mobilité. Et pour bouger, il faut avoir des parents qui ont les moyens de vous payer un logement, en fait, dans la ville la plus proche.
Oui, oui, oui.
Moi, je ne pense pas qu'il faille dire que ce soit que pour les ruraux, hein, l'artisanat. En revanche, on travaille beaucoup dans des établissements ruraux pour faire prendre conscience aux élèves que oui, quand on habite en Bourgogne, eh bien oui, la céramique, ça fait partie de l'identité de son territoire et que c'est chouette de savoir que les assiettes qu'il y a chez notre grand-mère et qui sont fabriquées à la manufacture de Divoin, eh bien, elles sont faites à partir d'un sol qui est sous nos pieds.
Oui.
Donc c'est tout un travail aussi de dire à ces jeunes, c'est bien de désirer en fait la vie en ville, dans des grandes métropoles où les séries américaines nous font croire qu'en un claquement de doigts, on peut être à Tokyo, à Paris, à New York et que c'est ça le bonheur et que finalement il y a d'autres formes de réussite et d'autres formes de réalisation de soi. Mais moi je veux aussi qu'on aille voir des élèves qui sont dans les collèges parisiens à qui on dit forcément que réussir, c'est faire polytechnique et à qui il faut absolument montrer d'autres voies de réalisation de soi. Parce que c'est pas parce qu'on est très très bon en maths et qu'on ne peut être qu'ingénieur. En fait, on peut être un très très bon menuisier, devenir meilleur ouvrier de France, faire des meubles qui entrent dans les collections du mobilier national et très bien gagner sa vie.
Et pour ça, vous vous y prenez comment alors? L'association, elle s'y prend comment en fait?
Nous, on a un programme et les établissements scolaires peuvent postuler à notre programme qu'on le déploie au sein de leur établissement. Donc, ils peuvent candidater. Donc, ce programme, c'est un programme de 15 heures qui s'articule à la fois autour de temps en classe où l'enseignant va aborder nos outils pédagogiques, donc des cahiers qui font le lien entre un problème de maths, un problème de physique-chimie, une BD et l'artisanat. Donc, il y a une préparation en cours. Et puis, nous, ensuite, on va intervenir sur des créneaux qui sont plusieurs fois dans l'année qui sont définis, qui s'adossent à un temps que les établissements scolaires ont obligation de consacrer à ce qu'on appelle la découverte des métiers. Et là, on va débarquer avec une armée d'artisans et il y a des ateliers de pratiques manuelles qui vont avoir lieu.
Vous sentez que les jeunes adhèrent au travail manuel?
Oui, mais parce qu'en fait, quand vous mettez... quand vous faites prendre conscience à un enfant de 12 ans qu'il est capable avec ses mains de faire apparaître un objet sur Terre à partir des ressources locales, en fait, il y a de l'émerveillement, il y a de la créativité, il y a de la fierté, il y a de la confiance en soi. Donc forcément, ça crée quelque chose d'assez magique. Ils entrent un peu dans une aventure avec ce programme et même si on ne suscite pas que des vocations, on permet à ces élèves de prendre conscience qu'ils ont des capacités manuelles et que c'est une compétence comme une autre et qu'elle a de quoi être valorisée.
D'accord. Et les filles aussi, je suppose, donc ce sont les deux, les filles adhèrent aux travaux manuels. Vous remarquez que beaucoup de filles adhèrent aux travaux manuels?
Oui. Alors en fait, c'est marrant. Au début, les élèves pouvaient choisir les ateliers qu'on proposait. Donc en fait, on avait les filles en broderie et les garçons en taille de pierre. C'est-à-dire, on est en 2024 et les stéréotypes de genre sont toujours aussi importants. Donc maintenant, en fait, c'est arbitraire. C'est-à-dire que les élèves ne peuvent plus choisir les métiers qu'ils vont découvrir dans leur année, mais ça leur est imposé. Mais en fait, tout le monde se prête quand même vraiment au jeu. Enfin, on a des filles qui font de la taille de pierre avec des tailleurs de pierre et qui sont juste épatées de voir que sous leurs mains, sous leurs outils, elles peuvent faire apparaître une sculpture sur la pierre de tuffeau.
Oui.
Et donc, on a des filles dans des collèges qui montent des parpaings, qui enduisent des murs. Et on a aussi des garçons qui se révèlent des brodeurs très minutieux. Et ça épate très souvent les artisans qui sont là.
Bah, de toute façon, il y a de plus en plus de filles hein, qui font des travaux dans le bâtiment. Hein. J'en vois de plus en plus. Je pense notamment à la peinture, la peinture en bâtiment, la mécanique, où, bon, qui sont deux. Bon, c'est le hasard qui fait les choses, mais je connais des entrepreneurs et des artisans. Et il y a de plus en plus de femmes et de jeunes filles qui candidate pour être embauché. Et ça, oui. ça m'a beaucoup pétonné, mais en fait, ça fait plusieurs années que je remarque ça.
Et ça, c'est notamment dû au fait qu'aujourd'hui, on a des technologies qui permettent aussi de fait que faire que les charges elles sont moins lourdes. Qu'aujourd'hui, en fait, ces métiers du bâtiment ont été très masculinisés, ouais, notamment ouais, du fait que ce soit ça demande vraiment beaucoup de force et une forme physique qui était réservée qu'aux hommes qui ont un peu plus de testostérone et un peu plus de développement musculaire. Mais aujourd'hui, notamment avec des exosquelettes, mais sans aller jusque-là, il y a plein de choses qui sont mises en place qui permettent vraiment aux filles d'être très à l'aise et d'être vraiment à égalité avec les garçons. Et inversement, aujourd'hui encore, dans ce qu'on appelle les métiers d'art, ça peut être de la maroquinerie, de la broderie, de la céramique. On a un peu plus de femmes que de garçons, d'hommes.
Oui.
Parce qu'on est dans des métiers de la décoration très minutieux. Mais il commence à y avoir un changement. Mm-hmm. Il y a de plus en plus d'hommes qui s'autorisent à aller sur le design textile, sur la broderie, sur la couture et sur des métiers qui, jusqu'à présent, souffraient aussi un peu de stéréotypes de genre.
Alors, ne pensez pas, hein, ma chère Gabrielle, si vous avez entendu ma petite introduction, ma petite libre antenne à moi, que j'en ai spécialement après le gouvernement. Mais aujourd'hui, si je vous écoute et si je suis bien au courant, de l'or dans les mains aujourd'hui travaille avec 571 artisans qui interviennent dans 25 établissements. Et au total, vous vous occupez de plus de 4200 collégiens qui ont, grâce à vous, découvert ainsi de nouveaux métiers. Mais vous montrez la voie, hein, y a quand même 3 millions de collégiens en France. Le gouvernement, aujourd'hui, en se rendant bien compte du retard pris par la France en termes de tous ces métiers, bouge-t-il et est-ce que votre initiative inspire-t-il le gouvernement ? Parce que ce sont ces 3 millions de collégiens qu'il faudrait quand même sensibiliser et familiariser.
Oui. Non, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dès le début, il y a eu vraiment un axe de plaidoyer chez De l'or dans les mains, avec l'idée de dire, de toute façon, il y a 800 000 collégiens par classe d'âge en France. Nous, tout seuls, on aura beau trouver des sous, avoir plein d'artisans embauchés, on ne touchera pas ces 800 000 jeunes. Et c'est aussi peut-être le rôle des associations d'aiguiller les pouvoirs publics pour leur montrer aussi où est-ce qu'il y a des urgences à traiter et comment est-ce qu'on peut construire des politiques publiques qui finalement coûtent moins cher.
D'accord.
Nous on a alerté les pouvoirs publics, on est allé voir les cabinets ministériels. Il y a eu une première marche qui est le plan métier d'art qui a été annoncé l'année dernière par les ministres de la Culture, de l'Éducation nationale,
oui,
du Commerce et de l'Artisanat. Alors, tout n'est pas extraordinaire, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte où il y a quand même assez peu de moyens, ou plutôt on ne met pas forcément les moyens au bon endroit.
On ne les met pas, oui.
Mais en tout cas, ce plan métier d'art, il a permis de fédérer les acteurs et de mettre la lumière sur un secteur. Je pense que ça faisait quand même quelques dizaines d'années que le monde de l'artisanat n'attendait même plus un plan ou une politique publique qui leur est consacrée.
Ce qui paraît quand même incroyable. Hein.
Oui.
Alors comme j'essaie d'être un peu au courant de ce qui se passe dans mon pays, et puis que mon métier m'amène j'ai la chance de parler avec beaucoup de citoyens et de citoyennes, j'ai eu l'occasion d'aller en Seine-Saint-Denis échanger avec la responsable d'une association qui s'occupe de la réinsertion des jeunes détenus. Et là, il y avait deux collégiennes qui, étaient là et qui m'expliquaient qu'à la sortie de la quatrième ou de la troisième, je ne sais plus très bien, on les avait tout de suite orientés sur des métiers, enfin des filières professionnelles. Et tenez-vous bien, en fait, la vente. C'est-à-dire que pratiquement dans tous les quartiers populaires aujourd'hui, on oriente les gamins sur la vente. Ça me paraît complètement incroyable, alors que on n'entend pas parler d'artisanat, en tout cas de métier manuel, en fait, quoi.
Non. Mais
Gabriel, on est quand même assez mal barré, quand même.
Oui, mais bon, ça ne date pas du gouvernement Macron.
Enfin, non. Attendez.
Ni Sarkozy, ni Hollande, ni Mitterrand.
Ça date bien évidemment des au moins des 7-8 gouvernements qui se sont succédés depuis 25-30 ans. L'abandon de l'industrie en France, ce n'est pas M. Macron, ça remonte, alors pas jusqu'au vase de Soissons, mais au moins à la fin de Mitterrand, pratiquement.
Jean-Pierre Chevènement, qui a eu pour objectif de mener 80% d'un casage au baccalauréat.
Oui, donc...
identifié à ce moment-là.
Ouais. Donc, ma question, c'était, on peut mettre combien d'années, à votre avis, de votre point de vue, pour recréer un peu un appel d'air sur tous ces métiers manuels ?
Alors là, je crois qu'il y a vraiment un appel d'air qui s'est d'abord créé en fait du côté des reconversions.
Oui.
Parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de reconversions et qui en fait sont pour moi en train de finalement de combler les premiers trous dans la raquette et d'assurer cette première transmission. Nous, ce qu'on voit, c'est que il n'y a pas encore assez de jeunes qui vont vers ces formations, mais il y en a toujours plus qu'il y a 5 ans. Donc, il y a quand même les lignes bougent. Et ce n'est pas que grâce ou à cause des politiques publiques. Hein, mmh. C'est aussi un mouvement de fond où les jeunes se posent aussi la question de ce qu'ils ont vraiment envie de faire, du sens qu'ils ont envie de mettre dans leur...
Mais dans un contexte difficile quand même, pas très inspirant, vous en conviendrez.
Bah justement, et nous, c'est un peu ça qu'on a envie de montrer, c'est que finalement, ça vous tient quand même de faire des choses de vos mains, en fait. Je veux dire, quand tous les matins, vous vous réveillez pour aller fabriquer des sacs, des sacoches en cuir qui
bien
vont
sûr,
être portées par des clients qui vous les commandent.
D'autant plus qu'on est plutôt doué en France pour ce genre de choses, en plus.
Oui, voilà. Sans que ça soit comme que l'apanage du luxe, hein. Je pense qu'il y a de plus en plus d'artisans qui se mettent à leur compte et qui veulent démocratiser aussi l'accessibilité de ces objets. Et donc, juste quand vous montrez ça, et les World Skills ou les salons avec les meilleurs ouvriers de France, il y a le montre aussi, je pense que quand on peut venir. Mm-hmm.
Mais ça me paraît être encore assez confidentiel, si vous me permettez. Mais bon.
Oui, bien sûr.
Dernière question, Gabrielle. Je crois savoir que vous avez à un moment suivi votre mère en Inde et que vous avez été sensibilisé, inspiré. Quand on va en Inde, comme dans tous les pays pauvres, hein, en tout cas à forte population, on s'aperçoit que le système D est bien là. Et que, surtout, on se sert beaucoup de ses mains. Est-ce que vous avez été inspiré? Est-ce que votre inspiration, elle vient de là, en fait, de ce moment-là de votre vie?
Oui, je crois qu'elle vient notamment de là. Donc, ma mère est danseuse. Mm-hmm. Elle pratiquait un art d'un théâtre dansé de l'Inde du Sud. Donc, c'est vrai que... Et les fleurs dans les cheveux, et aller chercher ses bijoux, faire réparer ses touchettes, faire reprendre ses costumes... par le couturier, choisir si la soie sauvage devait être rose ou bleue, avec quel motif brodé en or dessus, ben c'était comme un ballet dansant de mains que je voyais petite et où finalement mes yeux s'arrêtaient à hauteur de leurs mains. Donc, je pense que c'est quelque chose en effet qui marque et où finalement ça fait beaucoup plus partie du quotidien et où la temporalité n'est pas la même. La temporalité de prendre soin des choses et d'attendre que son objet soit que son pantalon soit fabriqué après avoir été fait prendre ses mesures par le couturier, bah c'est quelque chose qui m'a beaucoup habité, en tout cas m'a presque conditionné. Donc il y avait un espèce de rupture quand je revenais en France et que les choses n'étaient pas du tout comme ça.
Oui, il y a un sacré choc et pas que thermique quand on revient d'Inde, pays que j'adore, qui m'a détruit dernièrement le ventre depuis des mois, mais que je vraiment j'adore. On a au moins ce point en commun, ma chère Gabrielle. Merci mille fois pour votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes la directrice générale et la fondatrice de l'association de l'or dans les mains, le site internet www.delordanslesmains.com, et que vous travaillez aujourd'hui avec 571 artisans, 25 établissements et au total 4200 collégiens qui ont la chance d'avoir croisé votre chemin et de pouvoir profiter de ces inspirations, des inspirations de l'or dans les mains de l'association. Merci
et
mille fois.
Si des artisans nous écoutent, ils peuvent nous rejoindre en cliquant sur le lien sur le site internet Devenir artisan.
Voilà, site internet que nous mettrons sur notre page Facebook. Merci et bonne nuit, Gabrielle.
Merci.
Au revoir.